Chers amis, chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui, je dirais, il est le reflet de ce que nous vivons actuellement, ce confinement que nous vivons à cause de ce virus. Le titre du message aujourd'hui est le suivant. Le repos en Christ alimente notre marche en lui et avec lui. Le repos alimente notre marche. Mais commençons d'abord par la prière. Père éternel, maître du monde, tout vient de toi, par toi et pour toi, tu es souverain, tu prends contrôle de toutes choses. Accueille-nous ce matin, dans le repos, dans la sérénité, accepte-nous tels que nous sommes, en nous regardant à travers la croix, lavés dans le sang de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Je te prie, Père éternel, de ne regarder qu'à travers la croix, parce qu'en dehors de cette croix, nous sommes condamnés. Accepte-nous par nos faiblesses, notre errance, nos erreurs, notre petitesse. Accepte-nous tels que nous sommes, parce que nous sommes des simples grains de sable, incapables de te connaître, de te servir. Mais c'est toi qui es venu à notre rencontre, à travers ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, qui a accepté non seulement de venir prendre notre nature, devenir semblable à nous, mais il nous a portés avec lui sur la croix. Il nous a fait crucifier, il nous a fait mourir avec lui. Il nous a ensevelis avec lui. Et il nous a ressuscités avec lui. Il nous a fait asseoir avec lui à ta droite. Je te prie, Père éternel, de te révéler, de révéler ton Fils en chacun de nous, en ton Église, que ton Fils nous soit révélé, car la révélation dépasse les aspects intellectuels, car elle touche notre être intérieur, notre cœur, là où tu résides, là où réside l'Esprit Saint. C'est ma prière ce matin, que ta connaissance, notre communion avec toi, ce que le Seigneur a fait pour nous, notre position en Christ à ta droite, nous soit révélée dans notre être intérieur. Je remets entre tes mains toutes les personnes qui souffrent dans leur chair, qui souffrent au niveau psychologique aussi, qui souffrent peut-être d'avoir perdu aussi un travail. Je te prie d'accompagner cette situation avec miséricorde, avec grâce, avec amour. Et quand tu es en consolation, tu te révèles en chacun d'eux. Je te prie pour nos frères et sœurs de l'Église qui souffrent. Et dans la communion fraternelle, je te prie d'étaler ta main sur eux, sur leur situation, sur leur corps, afin qu'ils puissent vivre cette miséricorde venant de toi. Père éternel, au nom de ton bien-aimé Jésus-Christ, je remets entre tes mains ce message et qu'il puisse devenir actif pour chacun de nous. Qu'il nous parle, qu'il nous nourrisse, mais qu'il accompagne notre transformation en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Que ta volonté se fasse parce qu'elle est bonne, parfaite et agréable. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Alors maintenant que nous avons l'habitude, je dirais, du confinement, c'est en quelque sorte un repos. C'est en quelque sorte quelque chose qui s'arrête d'un seul coup. Et nous voilà maintenant dans une situation où on découvre autre chose. on découvre le sens de la famille, la relation avec les membres de la famille, relation avec son épouse, ses enfants. D'un seul coup, ça, les choses s'arrêtent. Et on découvre dans ce repos des aspects que nous ne connaissions pas ou ne connaissions pas assez, ou ne connaissions mal. Ce repos nous montre aussi l'arrêt de notre système économique. Les choses s'arrêtent et d'un seul coup, on commence à se poser des questions. Le repos nous permet de nous poser des questions, de faire un retour sur soi. Le repos, en quelque part, en quelque sorte, est salvateur. La vie chrétienne est de même. La vie chrétienne ne se résume pas dans le faire. La vie chrétienne ne se résume pas dans l'action. C'est une erreur que nous commettons en tant que chrétiens, et j'espère que cette période de confinement nous ouvre les yeux, encore une fois, sur notre conception erronée de l'Église et de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une organisation qui doit faire des actions, qui doit satisfaire des besoins des adeptes qu'on appelle frères et sœurs. La vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de règles. Il faut absolument que ça fonctionne pour montrer un certain dynamisme, montrer ce dynamisme aux membres de l'Église, à la société ou à soi-même. Non, ça ce n'est pas le christianisme. Et j'espère que cette période de confinement nous ouvre clairement les yeux sur ce qui n'est pas la vie chrétienne et ce qui n'est pas l'Église. Bien sûr que la vie chrétienne, il y a un certain dynamisme, etc. Mais ça, c'est la conséquence d'un repos, mais n'est jamais l'origine de la vie chrétienne. Vous voyez, chers frères et sœurs, chers amis, durant ces semaines de confinement, qu'est-ce que l'Église en tant que bâtiment? Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut balayer d'un revers de la main l'existence de l'Église même, pas du tout, mais seulement où sont nos priorités. L'Église, elle est en Christ, elle est spirituelle d'abord. Elle implique chacun de nous. Et c'est ça l'origine qui fait que nous nous réunissons dans une église, dans un bâtiment, une fois ou deux fois par semaine. Vous voyez, il ne faut pas inverser les choses. Dieu doit être à l'origine, le cheminement et l'aboutissement de toutes choses. J'espère que cette période nous ouvre les yeux sur les priorités, sur le plan de Dieu. Pour chacun de nous, pour l'Église. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner à travers cette période? Parce que avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu nous fait apprendre. On apprend avec tout ce que nous pouvons vivre dans la vie. Tout ce que nous traversons dans la vie est un enseignement. Il faut seulement apprendre, savoir, écouter. Et à travers les épreuves, ouvrir l'oreille et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et quand nous prenons la parole de Dieu, et quand on lit l'histoire de la création, la Genèse, jusqu'à la vision de Jean, l'Apocalypse, ne voyons que le principe divin est contraire au principe humain. Nous nous disons, il faut faire pour atteindre quelque chose. Dieu nous dit, c'est déjà fait. D'abord, vous reposez avant de pouvoir marcher et apprendre à être ferme. Plusieurs frères et sœurs, plusieurs auteurs, plusieurs hommes et femmes de Dieu ont évoqué le sujet. Austin Sparks, Watchman Nee, Jesse Penn Lewis, Tozer, tous ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, ont expérimenté, ont vécu le repos de Dieu, qui est à l'origine de nos actions en tant que chrétiens. Le repos alimente notre marche. Une lecture de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Remarquez, qui nous a bénis. Ce n'est pas dit qui va nous bénir, qui nous a bénis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Quelles sont ces bénédictions en Christ? Lisons maintenant Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 21. Éphésiens 1, 17, 21. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Voyez, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Continuons notre lecture. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 5 à 9. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa gloire, de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous remarquez, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes bénis en Christ. Et Christ est à la droite du Père. Nous sommes appelés à nous asseoir. Dieu l'a fait asseoir d'abord. Il est dit par la suite, et nous a fait asseoir avec lui. Nous sommes assis en Christ. Intéressons-nous premièrement à l'expression être assis. Qu'est-ce que implique être assis? Être assis, il révèle le secret d'une vie céleste. La vie chrétienne ne commence pas par marcher ou faire. Elle commence par être assis. Se reposer. La venue de Christ a marqué le début de l'ère chrétienne. Il nous est dit de lui qu'après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite du Père. Lisons Hébreux chapitre 1, verset 3. Hébreux 1, 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. De même, nous pouvons dire qu'être en Christ marque le début de la vie chrétienne. C'est-à-dire le moment où, par la foi, nous nous voyons assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est paradoxal. Nous avons du mal avec cette logique. Nous voulons d'abord faire pour atteindre. Alors la Bible nous dit, c'est déjà fait. Nous sommes appelés à nous reposer en Christ, dans le lieu céleste, parce que c'est notre place, elle est déjà acquise. La plupart des chrétiens parmi nous, commettent l'erreur d'essayer de marcher afin de pouvoir être assis. Bien sûr, on dira c'est logique. Je me repose après la fatigue. Un sportif, il s'entraîne, compétition, il se repose après. Eh bien, la logique divine est complètement le contraire. Notre raison dit, si nous ne marchons pas, comment pourrons-nous atteindre le but? À quoi pouvons-nous arriver sans effort? Comment pouvons-nous parvenir quelque part si nous ne marchons pas? Vous voyez, c'est des questions, entre guillemets, logiques. Mais le christianisme est une chose étrange. Si tout au début, nous essayons de faire quelque chose, nous n'arriverons à rien. Si nous cherchons à atteindre quelque chose, nous manquerons tout. Car le christianisme ne commence pas par un grand faire, mais par un grand tout est fait. C'est ainsi que la lettre aux Éphésiens s'ouvre par cette déclaration. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes conviés dès le début à nous asseoir et à jouir de ce que Dieu a fait pour nous, et non pas à chercher à l'atteindre par nos propres forces. La marche implique un effort. Alors que Dieu dit, nous sommes sauvés non pas par les œuvres, mais par la grâce, par le moyen de la foi. Nous employons constamment cette expression, mais qu'entendons-nous par cela? Nous voulons dire que nous sommes sauvés en nous reposant sur le Seigneur Jésus, en nous confiant en lui. Nous n'avons rien fait pour nous sauver nous-mêmes. Nous avons simplement déposé sur lui le fardeau de nos âmes chargées de péchés. Nous avons commencé notre vie chrétienne, non pas en nous reposant sur ce que nous avons fait nous-mêmes, mais sur ce qu'il a fait lui. Chers amis, chers frères et sœurs, la vie chrétienne, du commencement à la fin, est basée sur le principe d'une dépendance absolue du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de limite à la grâce que Dieu veut répandre sur nous. Il veut tout nous donner, mais nous ne pouvons rien recevoir à moins de nous reposer sur lui. C'est une position de repos à laquelle nous sommes appelés. Quelque chose a été accompli, l'effort cesse et nous asseyons. Oui, il est paradoxal, mais vrai, que nous n'avançons dans la vie chrétienne qu'en apprenant avant tout à être assis. Oui, le plus dur, à mon avis, ce n'est pas de faire, mais de s'asseoir. Un chrétien veut absolument faire dans l'action. Mais c'est plus facile de faire ainsi que de s'asseoir et de réaliser au fond de son être, en priant le Seigneur, de nous révéler d'abord notre position en Christ dans les lieux célestes. Au fond, que signifie être assis? Lorsque nous marchons ou que nous sommes debout, nous portons sur nos jambes tout le poids de notre propre corps. Mais quand nous sommes assis, notre poids tout entier, quel qu'il soit, repose sur la chaise ou le canapé où nous sommes assis. Nous nous fatiguons lorsque nous marchons ou que nous restons debout, mais nous nous sentons reposés dès que nous avons été assis quelques instants. En marchant, en restant debout, nous dépensons beaucoup d'énergie, mais une fois assis, nous nous délassons parce que ce ne sont plus nos muscles qui nous supportent, mais quelque chose en dehors de nous-mêmes. De même, dans le domaine spirituel, être assis signifie simplement faire reposer tous nos poids, notre fardeau, nous-mêmes, notre avenir, tout sur le Seigneur. Nous lui laissons le soin de porter cette responsabilité et cessons de la porter nous-mêmes. C'est tout simplement le principe divin depuis le commencement. Dans la création, Dieu travailla du premier jour jusqu'au sixième. Il se reposa le septième jour. Et nous sommes créés pour le septième jour. C'est-à-dire, nous sommes créés pour le repos. Mais c'est un repos qui n'est pas passif. C'est un repos qui va nous donner par la suite une force et un dynamisme spirituel. En sorte, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, ceux et celles qui disent que c'est ce que vous nous dites, là, chers frères, là, vous êtes en train de nous appeler à ne rien faire. Mais pas du tout. Le repos en Dieu, c'est un repos où le Seigneur qui fait son œuvre, c'est-à-dire nous réalisons notre position, nous nous alimentons de cette réalité spirituelle par révélation. Et par la suite, cette révélation, cette nourriture dans le repos, nous donne un dynamisme pour marcher. Nous pouvons dire que pendant ces six jours, Dieu fut très occupé. Et oui. Ensuite, la tâche qu'il était donnée, la tâche qu'il s'était donnée étant accomplie, il cessa le travail. Le septième jour devint le Shabbat de Dieu. Ce fut le repos de Dieu. Mais qu'en est-il d'Adam? Adam, nous est-il dit, fut créé le sixième jour. Il n'eut donc aucune part à ses premiers jours de travail. Il n'a rien fait durant les six jours. Car ce ne fut qu'à la fin de ces six jours qu'il fut créé. Tandis que Dieu avait travaillé pendant six jours pour jouir ensuite de son repos, Adam commença sa vie par le Shabbat, par le repos. Car Dieu travaille avant de se reposer, tandis que l'homme doit d'abord entrer dans le repos de Dieu avant de pouvoir ensuite travailler. De plus, ce fut parce que l'œuvre de la création de Dieu était réellement achevée que la vie d'Adam put commencer par le repos. Et c'est ainsi. Et c'est le même parallèle, c'est la même chose. Dans l'Évangile, dans les Évangiles, c'est ainsi. C'est dans ce principe que la bonne nouvelle est enracinée. Il a achevé l'œuvre de notre salut. Dieu a achevé l'œuvre de notre salut. Et nous n'avons rien à faire pour le mériter. Mais nous pouvons par la foi nous mettre au bénéfice de son œuvre parfaitement accomplie. Nous savons naturellement qu'entre ces deux faits historiques, c'est-à-dire entre le repos de Dieu dans la création, la Genèse, et le repos de Dieu dans la rédemption, se déroule toute l'histoire tragique du péché et du jugement d'Adam, du travail incessant et inutile de l'homme, et de la venue du Fils de Dieu, qui travailla et se donna jusqu'à ce que la position perdue fût retrouvée. Lisons Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 17. « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Telles furent ses paroles, jusqu'à ce que pour finir son œuvre expiatoire achevée, il ait pu pousser ce cri dans Jean 19, 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli !» Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Chers amis, chers frères et sœurs, le christianisme signifie que Dieu a tout accompli en Christ, et que nous entrons simplement par la foi dans la jouissance de ce fait. Notre mot-clé ici n'est pas pris dans son contexte d'un ordre. On ne nous demande pas « il faut vous asseoir, il faut nous asseoir ». Ce n'est pas un ordre, c'est une exhortation. Réaliser que nous sommes assis, et nous ne pouvons le réaliser que par révélation. Et la révélation ne vient que de Dieu. Alors prions pour que Dieu nous révèle ce repos en Christ. Nous ne pouvons pas le fabriquer. Mais Dieu seul peut le révéler. Vous voyez, même cela, nous dépendons de Dieu. On ne peut rien créer, on ne peut rien inventer. Mais que Dieu nous révèle notre position en Christ, dans le repos. Nous asseoir est une exhortation de nous voir assis en Christ. Pas en nous répétant « je suis assis », mais pas du tout. Mais de réaliser le fond de son être par révélation. Et Dieu seul peut le révéler en nous, et il veut le révéler à chaque chrétien, à l'Église. Paul prie afin que les yeux de notre cœur soient illuminés et que nous comprenions tout ce qu'implique pour nous ce double fait, que Dieu, premièrement, par sa force puissante, l'a fait asseoir, et qu'ensuite, par sa grâce, il nous a fait asseoir avec lui. Et la première leçon qu'il nous faut apprendre est que l'œuvre n'est pas la nôtre, mais la sienne. Ce n'est pas nous qui travaillons pour Dieu, mais c'est lui qui accomplit son œuvre à travers nous. Dieu nous donne notre position de repos. Il nous présente l'œuvre achevée par son Fils en nous disant « Assieds-toi ». Alors ne nous rebellons pas. Ne soyons pas dans nos mensonges subtils. De dire « Non, je veux faire ». Parce que Dieu nous invite et nous dit « Assieds-toi ». L'offre qu'il nous fait ne peut pas être exprimée mieux que par les paroles de l'invitation au grand festin dans Luc, chapitre 14, verset 17. Luc 14, 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » À l'heure du, je répète, ce verset très parlant, c'est une invitation pour chacun de nous, chers amis, chers frères et sœurs, et j'en termine. Luc 14, 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Amen.